Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mulcien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Voilà, c'est Hervé.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
C'est
l'oreille dans le coin.
Ça sent la bière de Londres à Berlin.
Deuxième partie du reportage consacré à Pascal Détré, brasseur basé à Grand-Frénois. Nous sommes actuellement dans la brasserie en train d'évoquer les différentes étapes de la fabrication d'une bière.
Et le lendemain matin, donc je vais commencer le brassage. Donc là, j'arrive, je ne suis pas un lève-tôt, mais ce jour-là, je suis à 7 heures dans la brasserie. Et tout est prêt, les grains sont concassés, l'eau est chaude. Tout de suite, je commence ce qu'on appelle l'empâtage. Je vais faire mélanger ces grains dans de l'eau chaude. Et puis, on va continuer à bien mélanger tout ça. Il y a un malaxeur, un vagueur, on appelle ça, une grille qui tourne dans l'eau. Alors avant, ça, je faisais ça au fourquet, à la main. C'est l'instrument qu'on voit là, une sorte de pelle avec des trous, une grille au bout d'un manche. La pelle du malteur, c'est parce que le malteur, lui, pendant que les grains germent, on n'attend pas que ça se passe, il faut en permanence remuer. Et autrefois, ça se faisait avec une pelle comme ça. Et de même que pour le brassage, le fourquet, c'était le travail des brasseurs. J'étais généralement plusieurs. Et pendant une heure et demie à peu près, il faut remuer les grains pendant qu'on chauffe. Alors autrefois, on chauffait en dessous avec du bois. Et donc surtout, il fallait répartir la chaleur. Alors aujourd'hui, on fait un petit peu pareil, sauf que c'est mécanisé. Donc on mélange bien tout ça et on va chauffer à des températures très précises. Il y a des paliers. On a deux paliers très très importants où on va fabriquer un peu des sucres différents. L'amidon, qui est dans la farine, va se transformer en sucre. Simplement par l'action des enzymes. Il y en a dans les grains, des enzymes. C'est un produit naturel. Et j'en rajoute pas. C'est uniquement ce qu'il y a dans le grain qui va servir. Mais le fait de chauffer, on va activer ces enzymes qui sont dans les parois des cellules d'amidon. Quand on fait germer le grain, il gonfle, il éclate, les cellules éclatent. Et les enzymes se retrouvent libérées, se trouvent en contact de l'amidon. Et le fait d'être dans l'eau, ils vont dégrader l'amidon. Et comme toute réaction chimique, parce que c'est de la chimie, c'est de la chimie organique, naturelle. Donc quand on se met autour de 63 degrés, on va activer vraiment très très fort ces enzymes qui vont couper la chaîne d'amidon. C'est une molécule très longue, l'amidon. C'est une chaîne donc formée de petits maillons qui seraient des sucres simples. Si on sépare tous ces maillons, donc on va avoir des sucres très courts qui vont servir de nourriture aux levures et puis des sucres un tout petit peu plus complexes qui vont, eux, rester dans la bière. Alors on peut choisir au moment du brassage de faire durer plus ou moins longtemps l'un ou l'autre de ces deux paliers qui sont les plus importants là. Et on va choisir le profil de notre bière, c'est-à-dire soit une bière dont tout l'amidon va être transformé en sucre simple qui vont être transformés en alcool ensuite. Donc une bière avec très peu de sucre résiduel, une bière sèche plutôt, désaltérante, avec uniquement de l'alcool, on va dire, et de l'eau bien sûr, mais tous les sucres sont transformés en alcool. Et ou alors une bière plutôt ronde, un peu sucrée, un peu plus épaisse, avec un peu plus de corps en bouche. Si on a une bière très houblonnée avec une grosse amertume, par exemple, c'est pas mal de corriger en gardant un petit peu de sucre. Donc là, ça se joue vraiment à ce moment-là, pendant le brassage, choisit la durée des paliers, ce qu'on appelle les paliers de température. Ensuite, on va arrêter un petit peu toutes ces réactions. Là, en chauffant, on va arriver à près de 80 degrés. Et on va filtrer à ce moment-là. Donc, on va séparer le moût des drèches. Les drèches, c'est donc les résidus des grains, les enveloppes de l'orge, le son, ce qu'on appelle le son, les écorces des grains. Qui vont rester au fond de la cuve, sur une grille, et puis à travers la grille, elle va passer le moût, ce jus sucré, lui, qui est devenu vraiment très sucré. Au départ, on a une sorte de bouillie très épaisse, et puis au fur et à mesure qu'on chauffe, ça se liquéfie un petit peu. Et puis quand on va filtrer, on va vraiment séparer le moût qui est la partie liquide, ça c'est ce qui va servir à faire la bière, des drèches, les parties solides, qui sont les déchets de la brasserie, qui peuvent être, dans mon cas, c'est donné à un agriculteur qui va soit les répandre dans ses champs pour faire de l'engrais, soit lui nourrir ses animaux, les moutons.
C'est plein de mes mères qui ont depuis toujours un sein pour la bière, un sein pour l'amour.
Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est le jus sucré. On est au début de la bière pour l'instant, il n'y a pas d'alcool. Hein. Les moutons qui vont manger les drêches ne seront pas pompettes. L'alcool va se faire plus tard, pendant la fermentation. Là, on a un jus sucré, mais alors qui n'est pas encore tout à fait fini. On va l'aromatiser en mettant du houblon. Hein. Le houblon, tout le monde sait que dans la bière, il y a du houblon. Un certain nombre de personnes pensent encore que la bière n'est faite qu'avec du houblon. Le houblon, c'est une fleur grimpante qui fait 8-10 mètres de haut, une sorte de liane qui pousse soit naturellement, on en a plein hein, dans l'Oise, ça aime bien les bordures de bois, les bordures de ruisseaux, et soit cultivée sur des perches très hautes. Et au mois de septembre, eh ben, on récupère les fleurs du houblon du pied femelle. Et c'est cette plante-là qui va... On l'utilise depuis... très très longtemps, 8e, 9e siècle, mais systématiquement dans les bières depuis le 12e, 13e siècle. C'est surtout les moines qui ont lancé cette utilisation du houblon dans la bière, à un moment où la bière est devenue une affaire de professionnels. Avant le 8e, 9e siècle, les gens faisaient leur bière chez eux. On y revient d'ailleurs un petit peu. Hein. Il y a beaucoup de gens qui font leur propre bière maintenant. À l'époque gauloise, tout ça, c'était même les femmes qui faisaient la bière. Et c'était un travail domestique comme faire la cuisine. Quoi, hein. Mm-hmm. Et à partir du haut Moyen-Âge, il y a eu des restrictions, si on veut. Tout le monde n'avait plus le droit de brasser. Hein. Seuls les moines avaient le droit de le faire. Et donc, comme c'est devenu un métier, les gens se sont observés. Ils faisaient de la bière très régulièrement, donc ils ont vu ce qui se passait en changeant tel ou tel ingrédient, en changeant tel ou tel procédé de fabrication. Et ils se sont aperçus que le houblon, c'était un excellent conservateur. La bière se gardait bien plus longtemps avec du houblon dedans. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup des IPA, hein, des India Pale Ale, mm-hmm. Où on dit que ce sont les Anglais qui ont découvert qu'en mettant beaucoup de houblon, la bière se transportait bien mieux jusqu'aux Indes. Dès le Moyen-Âge, on a découvert ça, que le houblon était un très bon conservateur. Et puis en même temps, il aidait la bière aussi à se clarifier, à se décanter. Depuis ce temps-là, même si on continue à mettre des plantes en Belgique, c'est une tradition d'ajouter des épices, des plantes. En France, il y en a beaucoup qui le font aussi. Classiquement, dans les bières de Noël, par exemple, on met des épices. Mais on met toujours du houblon depuis le XIIIe siècle, parce qu'on sait que ça va une bière bien meilleure. Donc là, on le met à ce moment-là. Il va donner de l'amertume aussi. Il a des propriétés apéritives. C'est ce qui ouvre l'appétit, digestif. Enfin, on a vraiment beaucoup de qualités pour cette plante. Donc on la met là comme une sorte de décoction. Hein, ça va bouillir avec le moût. En même temps, ça va stériliser. Les grains sont pas propres. Ils ont été dans les champs. Enfin, quand je dis propres, ils sont chargés de bactéries, de levures sauvages, de toutes sortes de poussières. Hein. Ils ont été dans les remorques de tracteurs. Enfin bon, ça a circulé partout des grains. Cette cuisson, là, en même temps, va stériliser tout ça. Et puis après, on va faire renaître cette bière en lui mettant des levures, mais cette fois-ci des levures qu'on aura choisies. Alors avant ça, il faut le refroidir, hein, parce que si je mets mes levures dans une bière bouillante, elles ne vont pas aimer. Hein. Les levures, ce sont des champignons. C'est vivant. Hein. C'est des saccharomyces. Saccharo, ça veut dire sucre. Mycèse, mm-hmm. Champignon. Donc, c'est les champignons qui se nourrissent de sucre. Donc, on va baisser la température. On a de l'eau froide qui va servir à refroidir le moût bouillant. Donc, on va l'amener autour d'une vingtaine de degrés pour pouvoir y mettre la levure. La plupart des brasseries artisanales, aujourd'hui, utilisent des levures de fermentation haute. C'est une levure qui est cousine de celle du boulanger, qui travaille à température entre 20 et 25 degrés, comme pour faire lever une pâte à pain ou un gâteau. On a aussi les levures de fermentation basse, qui, elles, sont plus à la mode depuis la fin du 19e siècle, parce qu'elle travaille à basse température, autour de 10-12 degrés, et donc il faut pouvoir refroidir les cuves. Donc soit on ne brasse que l'hiver dans des conditions tempérées dans une cave, soit il faut des moyens de faire du froid industriel, et ça, c'est apparu au 19e siècle. Donc c'est une bière qui est devenue très à la mode au tournant du 19e, 20e siècle. Encore aujourd'hui, toutes les bières industrielles sont des bières de fermentation basse. C'est la mode mondiale, hein. Mais les nouvelles petites brasseries artisanales reviennent aux brasseries d'antan et à la bière de fermentation haute qui a des goûts beaucoup plus développés. C'est un petit peu plus charnu. Les gens au XXe siècle ont préféré des bières plus légères, très fluides, très légères en bouche. Mais bon, aujourd'hui, on revient à des choses qui ont un peu plus de goût.
Vous écoutez actuellement l'interview de Pascal Détré, brasseur basé à Grand-Frénois.
Et donc cette fermentation haute se passe entre donc 20 et 25 degrés. Alors ça va arriver dans les cuves qu'on voit là, c'est les fermenteurs, hein, les cylindres coniques, on appelle ça puisqu'il y a une partie conique en bas pour récupérer la levure à la fin de la fermentation. Ça va rester chez moi 30 jours là-dedans. 3 semaines d'abord à température qui va bien plaire aux levures pour se développer. Donc ces levures, pendant ces 3 semaines-là, ben, elles vont consommer tous les sucres qu'on en a obtenus à partir de l'amidon. Donc on a sur le côté du fermenteur un petit barboteur, une sorte de petit bac avec de l'eau dedans, et on voit les bulles qui sortent. Donc ça, c'est signe que les levures travaillent, elles transforment le sucre en alcool, mais aussi en gaz carbonique. Donc à chaque fois qu'on voit du gaz carbonique, c'est quasiment un pour un en poids, c'est-à-dire quand on a un gramme de gaz carbonique qui s'échappe, on a un gramme d'alcool qui s'est formé dans la cuve. Et puis au bout d'un moment, on voit ces bulles qui diminuent et puis même qui vont s'arrêter. Donc ça, c'est signe que les levures ont fini de travailler. Hein, si la température reste constante dans la cuve, c'est signe qu'il n'y a plus de travail. Si la température baisse, ça pourrait être aussi signe que les levures s'arrêtent parce qu'elles ont trop froid. Et puis la dernière semaine, je pourrais mettre en bouteille directement. Mais il y a quand même beaucoup de levures en suspension dans la cuve. Et on va se retrouver avec énormément de levure dans le fond des bouteilles. Donc pour éviter ça, soit on filtre, on met en bouteille tout de suite en mettant un filtre. Mais quand on filtre, on enlève les levures, mais on enlève aussi pas mal d'autres choses. Et même les levures, elles participent aussi au corps de la bière, aux saveurs. Moi, je préfère ne pas filtrer mes bières pour avoir vraiment un maximum de goût. Et pour ne pas les filtrer et garder quand même une bière pas trop chargée en levure, je vais faire une décantation par le froid. Pendant une semaine, je vais baisser ma température de bière autour de 0 degré. La température étant très basse, tout ce qui est en suspension dedans va tomber au fond. On obtient une sorte de filtration naturelle, mais avec toutes les bonnes choses vont rester à l'intérieur. Hein. On va pas les retenir sur un filtre. Et puis, alors après vient l'étape de la mise en bouteille. Donc au bout d'un mois après le brassage, la bière est très froide, hein, elle est à 0 degré. Il n'y a plus de gaz dedans, elle est plate. Tout le gaz s'est échappé. Donc ce que je mets en bouteille, c'est une sorte de vin d'orge. Et pourtant, il faut que ça devienne gazeux quand même. Cette gazéification va se faire naturellement par une refermentation dans la bouteille. On a nos levures qui sont là. Et bien, il suffit de leur donner un tout petit peu à manger, un tout petit peu de sucre. Elles vont produire du gaz carbonique dans la bouteille. Donc il faut leur mettre un tout petit peu de sucre, vraiment très très peu. Si on en met trop, elles vont produire trop de gaz. Et de ce fait, on va avoir une explosion de la bouteille. Hein. Donc ça, c'est mélangé dans la bière juste avant la mise en bouteille. Ensuite, on met en bouteille et ces bouteilles, il va falloir les remettre au chaud pour réactiver les levures parce qu'à 0 degré, elles ne travaillent pas, hein, elles sont en léthargie. On remonte ça autour de 20 degrés, là, elles se réveillent, elles trouvent le peu de sucre qu'on leur a mis, elles vont se jeter dessus, hein, elles sont voraces et elles vont produire du gaz. Et ça prend très très peu de temps, enfin 10-15 jours. Quand on décapsule la bière, à ce moment-là, on a le petit pchit qui a caractéristique et puis les bulles qui remontent du fond. Hein, on se dit, là, c'est bon. Et par contre, cette fermentation, elle donne un petit goût un peu vert dans la bière. On ne peut pas la vendre tout de suite. Enfin, on pourrait, hein, mais elle est bien meilleure si on la garde encore un tout petit peu. Donc moi, j'attends encore une quinzaine de jours avant de la commercialiser. C'est-à-dire qu'il y a 2 mois de passé entre le brassage et la vente des premières bouteilles.
Parlons de la dernière étape qui est celle de l'étiquetage.
Alors chez moi, l'étiquetage se fait encore après la fermentation, c'est-à-dire au moment où je vais pouvoir commercialiser ma bière. Là pour l'instant, j'ai une étiqueteuse manuelle où il faut mettre les bouteilles une par une. Mes étiquettes sont collées à la colle à papier peint, c'est très écolo.
Un mot, monsieur Détré, pour terminer le reportage. Je rappelle qu'on était ici à Grand-Frénois, à la petite brasserie Picard, qui est une ferme réhabilitée, qui est aussi un lieu de culture, puisqu'il y a différentes manifestations tout au long de l'année.
Oui, c'est ce qui m'a amené à créer cette brasserie, c'est aussi le lieu qui est une ancienne ferme que j'ai restaurée. Je fais partie des maisons paysannes de l'Oise. Je l'ai restaurée en respectant l'architecture locale. C'est un très joli lieu d'après tout ce que me disent les gens qui viennent ici. Et on reçoit également donc des artistes pour des spectacles, pour des conférences, des expositions, des contes. Voilà, on essaye d'animer un petit peu le lieu.
D'ailleurs, votre brasserie, la petite brasserie Picard, elle jouit d'une excellente réputation.
Oui, j'ai été recommandé par Goemio, Petit Futé, Bottin Gourmand et elles ont obtenu de très belles médailles dans des concours nationaux et internationaux.
La seconde partie du reportage consacré à Pascal Détré, brasseur basé à Grand-Frénois, est terminée. Au revoir.
L'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
À très vite sur l'antenne d'RVM.